Place Info.
Bonsoir. Le 131e féminicide survenu en France. Témoignage à suivre. Vous entendrez un document de France Bleu Alsace. L'étoile jaune de la polémique à la manif contre l'islamophobie. La Turquie qui renvoie des djihadistes en France. La poussée de Vox, l'extrême droite en Espagne. C'est dans Les Informés avec Nora Hammadi, journaliste présentatrice de Vox Pop, magazine d'investigation sur l'Europe le dimanche sur Arte. Avec Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos. Avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Et avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bonsoir à tous, bienvenue tous les quatre.
Bonsoir.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Une femme a donc été tuée par son mari. Cela s'est déroulé en Alsace. Sylvia Walter, 40 ans, assassinée hier soir de plusieurs coups de couteau par son compagnon à Oberhofen-sur-Moder dans le Bas-Rhin. Le couple était en instance de divorce. Le mari, 58 ans, a tenté de se donner la mort après son geste, mais a été maîtrisé par les gendarmes. Il est en garde à vue, craignant pour sa vie. Sylvia Walter avait appelé sa fille unique à l'aide. Il était 23h hier soir. Stella Guiton a couru et a vu sa mère mourir sous ses yeux. Écoutez son témoignage, c'est un document de France Bleu Alsace.
Ma mère m'a appelé cette nuit à 23h pour me dire à l'aide qu'il avait de nouveau, et encore une fois, caché un couteau. J'ai entendu crier, je suis partie dans ma voiture. J'ai mis 3 minutes de Bichulaire à ici, alors que la gendarmerie également se trouve à Bichulaire. On les a appelés avant que je parte de chez moi. J'ai mis 3 minutes à venir, ils ont mis à peu près une demi-heure à 30 minutes à venir. J'ai eu le temps de escalader le portail, fracturer la porte pour pouvoir essayer d'entrer, voir ma mère se prendre le dernier coup de couteau dans la carotide, ma mère se relever, venir vers moi, et c'était fini. Ça fait 3 à 4 ans qu'ils sont ensemble, 3 à 4 ans qu'elle est rouée de coups, qu'elle n'a jamais voulu parler, par peur pour elle et pour le défendre. On voit où ça mène aujourd'hui. Personne n'a voulu nous écouter, personne n'a voulu nous aider. À part des porter plainte, madame, porter plainte. C'est bien beau de porter plainte, mais ça aide pas.
Nora Hammadi, par-delà la colère et l'émotion si compréhensible de cette fille Stella Guiton, il y a également la dénonciation, ou du moins de l'intervention, ou de la lenteur de l'intervention des forces de l'ordre.
Et ce qui est le plus dramatique en fait là-dedans, c'est que le cas de cette femme, malheureusement, est un cas presque idéal typique. C'est... Le Monde a fait une excellente enquête il y a quelques semaines sur les 120 cas de femmes tuées l'année dernière en 2018 en France. Un tiers avait eu des dépôts de plainte, des mains courantes, avait appelé à l'aide en fait la justice et la police de ce pays. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre de la prise de conscience nécessaire politique, publique, institutionnelle, de l'incapacité à prendre en charge et à accompagner en fait ces femmes. Et il y a des pays en Europe qui ont été en capacité de le faire. Je pense notamment à l'Espagne qui a réussi de manière drastique en fait à réduire ces féminicides parce qu'il y a eu une véritable volonté politique. Il y a eu ces dernières semaines un Grenelle des violences conjugales. Qu'est-ce que ça a donné? L'année dernière, 120 femmes ont trouvé la mort sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. On en est à 131.
Ce chiffre est à la hausse, oui.
Et ce chiffre est à la hausse. On est mi-novembre, ce n'est pas terminé.
Henri Vernet, sur d'abord ce récit assez bouleversant hein, de cette fille qui voit sa mère mourir
poignant.
Sous ses yeux,
bien
assassinée.
Sûr, c'est poignant, mais c'est également c'est rageant de l'entendre, parce que c'est pas la première fois, ici même, dans votre émission, qu'on a à parler d'un féminicide. Cette répétition est atroce, elle est terrible. Parce qu'en effet, la prise de conscience politique, malgré tout, elle existe. C'est devenu une grande cause. Il y a des pas qui ont été franchis. On voit bien qu'ils sont terriblement insuffisants. Mais il y a ce Grenelle dont vous avez parlé à l'instant, Nora m'a dit. Simplement, il faut maintenant mettre tout cela en œuvre. On voit bien que ce sont des mentalités à changer, que ce sont des formations à inculquer. Comment se fait-il, en effet, que quand des policiers sont alertés sur un cas pareil, mais il n'y a pas davantage de réaction plus sérieuse, de prise en compte réelle de la souffrance d'une victime potentiel de son entourage, ouais. Quand les cris d'alerte sont lancés, pourquoi est-ce qu'il y a un tel délai, manque de volonté de mettre les choses en œuvre, donc il faut vraiment passer à une vitesse bien supérieure, mettre des moyens supplémentaires, et en effet c'est vraiment le fléau, ouais, qu'il faut faire reculer.
Nous poursuivons ce tour de table, Chloé Morin, c'est un système qu'il faut changer. Totalement.
Oui, il y a la question des politiques publiques, des lois et des lois qu'il faut changer. Et il y a effectivement la question des mentalités. Et c'est vrai que c'est extrêmement frappant sur le sujet global des violences faites aux femmes, si on élargit un petit peu le sujet, à quel point un certain nombre d'idées, on la vit dure et reste extrêmement répandue. On avait fait une étude il y a quelques mois sur les violences faites aux femmes et notamment la culture du viol. Et par exemple, vous avez 27% des gens qui pensent en France qu'il y a beaucoup de viols pour lesquels on porte plainte et qui sont dans les faits, qui ne sont pas dans les faits des viols. Vous avez la même proportion qui disent que les femmes qui se promènent en tenue sexy sont en partie responsables du viol dont elles sont victimes. Donc on voit bien qu'il y a, des mentalités à changer et ça c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs des mentalités au sein même des forces de l'ordre ou des acteurs, des fonctionnaires qui sont amenés à intervenir dans ces...
Gilles Bornstein, nous sommes face à une urgence du quinquennat. Hein.
Absolument. De toute façon, le chiffre des féminicides est insupportable. Le témoignage qu'on vient d'entendre est insoutenable. Alors pour autant, je vais essayer de dire ce qui va bien. J'ai l'impression que quand même les mentalités changent. Il y a pas longtemps, la HAS a fait une procédure de formation pour les médecins. Jusqu'à présent, les médecins disaient c'est pas notre problème. Ce qui se passe dans les maisons n'est pas notre problème. Ils n'avaient pas envie, en gros, d'être traités de balance. Bah si, la HAS leur dit, la haute autorité de santé leur dit, si c'est votre problème, si en examinant une patiente, vous avez l'impression qu'il se passe des choses chez elle, vous devez le dire. Ce Grenelle, évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de mesure parce que le Grenelle, c'est sur un temps long, mais le président de la République avait bien dit qu'il fallait consacrer de l'argent pour former les policiers pour qu'ils entendent davantage ce genre de plainte. Alors évidemment, ça arrive avec ce témoignage absolument insupportable, mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Mais c'est vrai qu'entre la prise de conscience et la réalité des actes, il y a un peu de temps. Espérons que la réalité des actes suive cette prise de conscience que je crois réelle dans la société française.
Là, je rappelle parmi les mesures qui sont sur la table, il y en a une soixantaine du fameux Grenelle des violences conjugales. Il y a amélioré l'accueil des victimes qui viennent déposer plainte. Il y a du chemin à faire apparemment. Faire évoluer le secret médical et notamment aussi rendre le fameux numéro, le 3919, plus accessible. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce 131e féminicide survenu en France. 20h10 sur France Info. Rappel de l'info, tout d'abord avec vous, Victor Vasseur.
La centrale nucléaire de Cruas a arrêté ce soir une procédure obligatoire après un séisme. L'épicentre est à Montélimar dans la Drôme. Il y a 4 blessés, dont un grave. Au Teillan, en Ardèche, toutes les écoles, les collèges, les lycées seront fermés demain. L'hommage d'Emmanuel Macron aux soldats morts à l'étranger à l'occasion du 11 novembre, inauguration d'une statue dans le 15e arrondissement de Paris. Ce monument, ce mémorial est le vôtre, les mots du président adressés aux familles de militaires disparus. Les vols commerciaux des Boeing 737 MAX reprendront avec du retard en janvier. Ces avions sont cloués au sol depuis mi-mars après 2 accidents ayant fait 346 morts. 11 djihadistes français rentreront-ils en France ? La menace de la Turquie, le Quai d'Orsay, rappelle que de nombreux détenus djihadistes venus de Turquie sont arrêtés en France à leur descente d'avion. L'Union européenne appelle à de nouvelles élections crédibles en Bolivie. Après la démission du président Evo Morales, il quitte son poste après 3 semaines de contestation contre sa réélection. La Bolivie n'a plus de président. Et puis Blaise Matuidi ne rejoindra pas l'équipe de France de football pour les derniers matchs de l'année. Contre la Moldavie et l'Albanie, il est blessé. Il est remplacé par le joueur d'Arsenal Matteo Guendouzi.
Les informés, Jean-François Aquili.
Elle aura provoqué une onde de choc dans le monde politique, mais pas seulement. La photo publiée par Esther Benbassa sur son compte Twitter hier soir, de cette petite fille à ses côtés lors de la marche contre l'islamophobie hier à Paris. Cette petite fille portant une étoile jaune, on va y revenir. Je vous propose d'écouter d'abord les arguments de la sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, qui s'en est expliquée tout à l'heure dans le 1850 France Info.
Je déplore que cette photo ait été interprétée de cette façon-là, d'accord ? Moi, je ne l'ai pas vu, cet autocollant, et que des personnes aient été choquées, je peux comprendre. En tout cas, moi, je dirais que moi, j'interprète cet autocollant comme un hommage aux Juifs qui ont souffert, parce que la déportation, c'est après l'étoile, n'est-ce pas ? Et cet hommage qui est rendu aux Juifs qui ont souffert en se disant, voilà un cri d'alarme, attention, ce qui est arrivé aux Juifs, ça peut nous arriver aussi. Moi, j'ai lu ça de cette façon-là. Ce n'est pas la même époque, ce ne sont pas les mêmes conditions. L'État n'est pas raciste, l'État français aujourd'hui. Donc, la comparaison est limitée.
Nora Hammadi, vous entendez les arguments d'Esther Benbassa?
Moi, je les entends, parce que j'étais tout simplement à cette manifestation hier, et honnêtement, je n'ai pas vu ces pancartes, je n'ai pas vu ces personnes arborer ces étoiles. Alors, en regardant bien la photo, c'est une étoile, non pas une étoile de David, c'est une étoile qui est liée à un croissant, qui est celui qui représente l'islam. Bon, ceci étant, c'est même pas le propos.
C'est une étoile à cinq branches, qui est jaune.
C'est une étoile à cinq branches, avec un croissant qui représente...
Et écrit muslim.
Oui, bien sûr, mais je ne vais pas remettre...
C'est bien pour montrer qu'il y a similitude de destin.
Attendez, on va y aller tranquillement. Je suis pas en train là de justifier le port de cet emblème. Je suis en train de vous dire que là, en l'occurrence, eu égard à ces 15 000 personnes qui étaient dans la rue hier, moi j'y étais, je ne les ai pas vues, que ce raccourci soit malheureux, car effectivement, nous ne sommes pas dans cette réalité-là.
Il n'est pas malheureux, il est scandaleux.
Eh ben écoutez, ça c'est votre terme.
Moi,
je pense que c'est un raccourci.
Écoutez,
je vous le dis, je le trouve malheureux parce que je pense que les gens n'ont pas pris conscience que cette réalité qu'on est en train de pointer, qui sont les discours de haine vis-à-vis des musulmans, ce n'est pas ce qui s'est passé il y a 80 ans, en 1930 ou en 1940, sous la collaboration, sous Vichy, en France. Voilà, ce n'est pas du tout cette réalité-là. Donc, je pense que là, c'est effectivement un raccourci qui n'a pas lieu d'être, que cet emblème n'avait pas à être dans cette manifestation. Maintenant, et je vais vous donner mon sentiment, est-ce que ces quelques personnes, en fait, on ne contrôle jamais une foule de 15 000 personnes. J'ose espérer, cher Gilles, que vous avez fait des manifestations. Dans quelle mesure pouvons-nous contrôler la parole et ce qui est arboré par des personnes qui viennent de partout? C'est pas le cas. Donc, dans ce cadre-là, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que ces personnes sont venues, ont manifesté, ce fut une belle manifestation citoyenne, etc. On a vu beaucoup de drapeaux français, des femmes voilées arborer des drapeaux français en voile aussi. Et j'ai le sentiment, en fait, qu'on fait diversion au travers, en fait, de ces quelques cas qui sont aujourd'hui en train d'entacher une manifestation qui s'est très bien passée. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est la manière, en fait, dont c'est perçu.
Qui fait diversion? Gilles Bernstein, fait diversion?
Enfin, ce sont des
faits que nous décrivons. Il n'y a personne, il n'y a pas de volonté. Nora m'a dit,
j'aimerais bien qu'on parle. Alors, dans ce cas, là, mon cher Jean-François, pourquoi ne parlerions-nous pas des résultats de cette manifestation qui s'est très bien passée, de la manifestation qui s'est terminée par une Marseillaise entonnée par 13 000 personnes, place de la Nation? Pourquoi faire ce choix de parler de ces quelques personnes qui ont décidé d'arborer ça de manière dramatique, alors qu'on pourrait pointer cette Marseillaise qui a été entonnée par plusieurs milliers de personnes, place de la Nation.
Moi, je trouve que toute cette semaine sur cette histoire-là est absolument pathétique. C'est-à-dire que
je vous rejoins.
Très bien. Il y a eu cet appel à la manifestation auquel, à mon avis, on ne pouvait pas s'associer à cause de la nature de ceux qui appelaient. On sait très bien que le CCIF est proche des frères musulmans et tenant d'un islam politique.
Je vous rappelle que le 11 janvier, on a été amené à défiler avec des gens qu'on n'appréciait pas non plus.
Je ne vous ai pas interrompu. Deuxièmement, à cause de l'appel, puisque l'appel fait part de lois liberticides, il ne me semble pas que la loi de 1904, que la loi de 2004 ou la loi de 2010 soient des lois liberticides.
La CNCDH rappelle la loi de 2010 comme étant une loi liberticide.
Laissez-moi parler. J'ai l'impression qu'une loi qui empêche les femmes de porter la burqa n'est pas une loi liberticide. Donc je ne veux pas défiler dans un appel où on parle de loi liberticide pour ce que j'estime être des lois laïques. Bien, donc la préparation de cette manifestation n'était pas optimale. Je trouve que le déroulement de cette manifestation, ça aurait pu mieux se passer. Le déroulement de cette manifestation, vous parlez de Marseillaise, d'accord. Le déroulement de cette manifestation n'est pas optimal non plus. Il y a ces étoiles jaunes qui sont absolument scandaleuses. C'est pas regrettable, c'est scandaleux. Mes grands-parents ont été déportés. Ce n'est pas le sort des musulmans en France.
Mais on est d'accord.
Dieu merci, ce Allah Akbar crié en général n'est pas normal non plus. Et ça me choque d'autant plus qu'il y aurait matière à une grande manifestation républicaine. Il y a eu un sondage fait par la Fondation Jean Jaurès, par un concurrent d'Ipsos, par IFOP, je crois, qui montre la réalité de la stigmatisation dont sont victimes les musulmans musulmans en France. Certains ont dit c'est pas les musulmans, ce sont les arabes. Tous les arabes ne sont pas musulmans. Tous les musulmans ne sont pas arabes. Je vais vous dire, je m'en fous. Cette stigmatisation, elle est réelle. Et aucun républicain en France ne peut s'en satisfaire. Donc s'il y avait des mots d'ordre moins excluants, effectivement, toute la société française, tous les républicains pourraient marcher contre les discriminations.
Alors, je vais vous répondre très rapidement. Je vais quand même répondre très rapidement parce que là,
parce qu'il
je suis quand même attaqué personnellement. Oui. Là, si. Parce que moi, j'ai décidé d'aller manifester sur... on attend encore aujourd'hui que des grands partis, que des grandes organisations antiracistes, en fait, se positionnent et appellent à...
Le PS l'a fait.
Non, je suis désolée.
Le PS a refusé d'aller à cette manif.
Le PS a attendu vendredi pour appeler à une contre-manifestation pour le 20 novembre.
Bref, on va pas revenir là-dessus. Je vais reprendre la main de cette émission, si vous le permettez. Nora Hamadi, si vous en êtes d'accord, bien sûr. Nous allons poursuivre ce tour de table. Je vais vous faire entendre tout d'abord ce qu'en a dit ce matin l'imam de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, c'était sur France Info.
La manifestation s'est bien déroulée. Il n'y avait pas de violence ni d'incident notoire. Bien sûr que dans toute manifestation, il y a ce type d'incident qui peut-être
que les gens
qui ont arboré cette étoile jaune ne connaissent pas l'histoire des Juifs en France. On peut pas faire des comparaisons comme ça. On n'est pas dans les années 30. Et donc il y a c'est un dérapage qui ne sied pas une manifestation qui dénonce l'exclusion avec cette manière-là.
Voilà. Avant le rappel de l'info, Henri Vernet, vous n'avez pas eu la parole pour l'instant sur ce qui s'est produit là, sans forcément effectivement zoomer sur cette étoile jaune détournée, on va dire, votre regard sur cette manifestation.
Moi, je dirais pas que c'était une belle manifestation. Et c'est vraiment, et c'est d'autant plus regrettable que parmi l'immense majorité des manifestants, les raisons pour lesquelles ils étaient dans la rue hier étaient de bonnes raisons. On l'a dit, et c'est vrai, ce pays souffre de racisme, les musulmans ils souffrent de discrimination terrible au logement, à l'emploi, même à l'éducation. Bref, c'est une société qu'il faut réellement réformer de ce point de vue-là. Mais cette manifestation, telle qu'elle s'est déroulée hier, non, elle n'était pas belle et je trouve qu'à l'arrivée, elle dessert la cause. C'est vrai qu'on pointe ces étoiles jaunes. Moi, je veux dire, je trouve ça en effet scandaleux. Je sais pas quels sont les mots choquants. C'est surtout, personnellement, moi, ça me fout en rogne. Ça me fout en rogne qu'on confonde, qu'on mélange cette espèce de relativisme, qu'on mélange tout comme cela, qu'on fasse porter une petite fille qui, en plus, j'en sais rien, je la connais pas. Mais est-ce qu'elle savait de quoi elle était porteuse? Le symbole qu'elle avait sur sa poitrine, est-ce qu'elle le connaissait?
Certainement
pas. Et donc, c'est totalement anormal. Et cette espèce de façon, encore une fois, de mélanger, de... Enfin, écoutez, non, c'est vraiment ça dessert la cause à l'arrivée. Cette manifestation a été mal partie depuis le départ parce que parmi les organisateurs, il y avait tout simplement des gens qui n'ont rien à faire dans une manifestation qui se veut républicaine, qui ont un discours de haine, qui ont un projet d'islam politique. Et donc, à l'arrivée, le risque des débordements auxquels on a assisté était inhérent à l'organisation même de la manif.
Allez, 20h et 21 minutes sur France Info. On n'a pas encore entendu la voix de Chloé Morin, politologue chez Ipsos sur cette manifestation d'hier. On marque une petite pause, on respire. Rappel de l'info avec vous, Victor Vasseur.
200 habitants ne pourront pas dormir chez eux au Teil, en Ardèche. Des maisons fissurent à cause d'un tremblement de terre ressenti dans la vallée du Rhône. Il y a 4 blessés, dont un grave. Pas d'impact sur les deux centrales installées en Drôme-Ardèche, mais celle de Cruas sera arrêtée ce soir. Une statue en bronze, 6 militaires portant un cercueil invisible. Le monument, en hommage aux soldats français morts en opération à l'étranger, inauguré à Paris par le président Macron. Une cérémonie en présence de 600 familles de militaires disparus. On ne veut surtout pas que les habitants y touchent. Les mots du maire de Lacanau sur France Info, 763 kilos de cocaïne, très pure et dangereuse, découverte depuis la mi-octobre sur le littoral atlantique. Les plages sont fermées pour des raisons de sécurité. Pete Doherty comparaîtra demain devant le procureur de la République, le chanteur britannique arrêté ivre et placé en garde à vue à Paris après une bagarre à Pigalle. Et puis Tony Parker qui entre dans le panthéon des San Antonio Spurs. Plus aucun joueur ne pourra porter le numéro 9, son maillot retiré. Grande cérémonie cette nuit aux États-Unis. Le basketteur français a passé 17 saisons dans l'équipe américaine.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Alors le souci avec les manifestations, notamment sur le fait religieux, c'est que les symboles ont un sens. Je vous fais entendre un dernier témoignage qui est intéressant. C'est celui de Raïm Korsia, le grand rabbin de France, qui était également invité sur France Info.
Comment on peut comparer les choses qui ne sont pas comparables ? On peut dire que les uns ou les autres se sentent, ont l'impression, ou sont discriminés, mais on ne peut pas comparer les choses qui ne sont absolument pas comparables. C'est au moins aussi grotesque et insupportable de le dire au CRFSS. Pas maladroit, c'est une aberration, et ça a une vocation à, d'une certaine manière, spolier même l'unicité de la Shoah, pour en faire quelque chose qui est finalement banalisé. Pardon, mais vous imaginez une manifestation de juifs qui manifesterait comme ça en 1942 ou 43 en plein Paris. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Il faut oser dire à celles et ceux qui utilisent cette souffrance, cette unicité de la Shoah, que ce n'est pas acceptable et que nous n'acceptons pas.
Chloé Morin, votre regard sur ce qui s'est produit hier dans les rues de Paris. Une manifestation, vous le disiez, Nora Hammadi, qui au fond était extrêmement tranquille avec des gens très sincères, mais malheureusement, peut-être ça et là, des symboles qui ont pu en détourner le sens.
Oui, des symboles. Je ne veux pas rentrer dans la polémique sur l'étoile jaune, mais ce que ça dit, c'est aussi que d'une certaine manière, pour trouver une place dans la société, on aurait besoin d'être une victime. Enfin, il y a une sacralisation du statut de victime qui est assez étonnante dans cette polémique-là. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est extrêmement dommage parce que une enquête de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès a montré l'ampleur des discriminations et de la stigmatisation dont les musulmans peuvent faire l'objet en France. Mais ça va même au-delà de ça. On sait qu'il y a, à l'égard de l'islam en France, des attitudes, des perceptions qui sont extrêmement négatives. C'est des chiffres que j'ai déjà cités ici, mais 71% des Français considèrent que l'islam en France cherche à imposer son mode de fonctionnement. C'est un terreau de défiance et d'intolérance qui fait que du coup une polémique comme celle-là, indépendamment du fait qu'elle soit justifiée ou non, mais une polémique comme celle-là vient tout de suite discréditer un mouvement qui cherche à la base, dans son immense majorité, à mettre un coup de projecteur sur la réalité du racisme et de la stigmatisation qu'il peut y avoir vis-à-vis des musulmans.
Nora m'a dit en deçà, hein, de bien avant cette histoire d'étoiles, au fond, c'est parti aussi du texte, au fond, qui parlait de loi liberticide. Mm-hmm. Le malentendu part de là, en fait.
Alors, moi, là-dessus, réellement. Le malentendu, si on veut en faire du malentendu, moi, je reprends ce que je disais tout à l'heure, la CNCDH, qu'on ne peut pas ici dans cette
Mission nationale consultative
des droits de l'homme avait pointé, tout comme Amnesty International, qu'on ne peut pas aussi dire de ces structures, que ce soit la LDH, la Ligue des droits de l'homme, avait pointé le fait que ce soit d'ailleurs la loi de 2004 ou la loi de 2010, ces deux lois sont pour ces structures des lois liberticides à partir du moment où elles empêchent en fait la prise en compte d'une liberté individuelle qui est celle de porter le vêtement qu'on souhaite. Je ne veux pas polémiquer sur loi liberticide ou pas sur cet appel, etc. Je reprends ces organismes, en fait, qui sont des organismes qui luttent pour les droits humains, et Amnesty pointait
à l'époque... Ils ne sont pas totalement exempts de la pensée politique, je suis désolé.
La LDH et Amnesty International,
bien sûr,
la CNCDH.
Bien évidemment. Mais pardon,
je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Comment pouvez-vous, à un moment, dire de la Ligue des droits de l'homme et de la CNCDH et d'Amnesty International qu'ils travaillent pour l'islam politique?
Mais non.
Arrêtons. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire?
Non, c'est tout ce que je dis. Alors, finissez.
Alors, du coup, je voudrais pas qu'on revienne sur l'appel. Moi, ce que je voudrais pointer, en ayant une lecture un petit peu plus politique là-dessus, je ne suis pas, moi, représentative, vous irez poser ces questions aux gens du CCIF, etc. Ce n'est pas mon propos. Ayant une lecture politique, pourquoi aujourd'hui, les organisations antiracistes, universalistes, puisque c'est comme ça, en fait, qu'elles se présentent, ou le Parti Socialiste, puisque nous en parlions tout à l'heure, pourquoi n'ont-ils pas appelé alors que ça fait un mois aujourd'hui?
Exactement, à cause des termes dont on parle.
Pourquoi n'ont-ils pas... Mais laissez-moi terminer, cher Gilles. Pourquoi n'ont-ils pas, en amont, pointé que ces discours de haine étaient inadmissibles et qu'il fallait appeler à une contre-offensive
Nora m'a dit, certains responsables politiques à gauche, effectivement...
On a laissé le champ à ces organisations.
L'ensemble du Parti Socialiste, ou même Fabien Roussel, qui, lui, est quand même le leader du Parti Communiste Français, même si d'autres personnalités se sont joints...
Ils étaient dans la manifestation hier.
Pas tous. Donc certains ont été dérangés, gênés par, effectivement, le libellé de l'appel.
Ne l'ont pas été, mais ça compte. Et Mélenchon, le premier, a dit...
Vous savez ce que je vous propose.
Il est peut-être important de pointer que dans ces moments où ces discours de haine sont les plus importants, qu'il faut collectivement dépasser ça.
Si vous plus pour avoir des mots d'ordre fédérateurs.
Allez, je vous propose de marquer une pause. On va évoquer dans un instant eh bien, le fait que la Turquie a décidé de renvoyer des djihadistes dans les pays occidentaux. Ce que je vous propose, c'est de refaire un petit tour de piste sur cette question pour la boucler de façon un petit peu plus posée dans un instant, dans quelques minutes après la pause, le rappel de la météo et de l'info. Et nous revenons dans la deuxième partie des informés de France Info. À tout de suite.
Vous êtes salarié, chercheur d'emploi, en reconversion ? France Info vous embarque dans le train de la révolution numérique. Rendez-vous pour une soirée exceptionnelle à H7, quartier de la Confluence à Lyon, le 19 novembre. Témoignages de salariés, conseils d'entreprise engagés, idées de formation, venez écouter et échanger directement avec les intervenants. C'est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir, mardi 19 novembre à 19h à H7 à Lyon. Informations et réservations sur maisondelaradio.fr. Un événement France Info.
Avec Denso Aegis Network, acteur majeur de la communication et de la transformation digitale des entreprises. Avec Région Job, trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi. Plus de 80 000 offres d'emploi partout en France, sur les sites et l'appli mobile Région Job. France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
La météo, les prévisions de Météo France avec vous, Elodie Galac.
Les pluies se décalent vers l'est ce soir. Il neige un peu vers 700 ou 800 mètres sur les massifs. Demain, beaucoup de nuages et des averses. Le matin, ce sera bien encombré avec quelques averses près de l'océan et sur le sud-ouest, de la Manche au nord de la Seine aussi, plus nombreuses et parfois orageuses sur la Normandie. L'après-midi, le risque d'averses s'étendra du sud-ouest au nord-est, toujours plus marqué près de la Manche et près des Pyrénées. On aura des averses de neige vers 800 mètres sur les Vosges et le Jura, 1000 mètres pour le massif central, 1400 pour les Pyrénées. Du sud de la Bretagne vers les Pays de la Loire, on trouvera des éclaircies jusqu'au bassin parisien et à la frontière belge l'après-midi. De la Méditerranée aux Alpes et en Corse, du soleil avec du vent, Mistral et Tramontane, jusqu'à 90 km à l'heure. Il fera un peu frais, moins 2 à 3 degrés sur l'est et le massif central le matin, 3 à 10 ailleurs. L'après-midi, 7 degrés à Metz, 9 à Paris, Lyon, 12 à Nantes et à Agen et 17 degrés à Nice.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Un nouveau féminicide. Hier soir en Alsace, une femme de 40 ans tuée de 4 coups de couteau par son mari. Ça s'est passé à Bischwiller dans le Bas-Rhin après une dispute. Sur France Info, la fille de la victime en veut aux gendarmes, dit-elle, d'avoir mis du temps à se déplacer, 15 à 30 minutes selon elle. Les militaires qui ont finalement arrêté l'agresseur et l'ont empêché de mettre fin à ses jours comme il cherchait à le faire. Il y a un mois déjà, la victime avait déposé plainte contre son mari pour menace de mort. La centrale nucléaire de Cruas en Ardèche a arrêté temporairement pour une durée indéterminée le temps de faire le tour des installations après le séisme de magnitude 5,4 qui a touché la région de Montélimar ce matin. Entre l'Ardèche et la Drôme, un tremblement de terre qui a fait 4 blessés, dont un grave, et causé de nombreux dommages matériels sur 200 maisons au total. Dans la commune du Teil, la plus touchée, des gymnases ont été ouverts pour héberger les habitants évacués, comme Cécile, son témoignage.
On était dans la maison, ça a fait comme une explosion en fait. Il n'y a pas eu de prémices, il n'y a pas eu de choses qui ont tremblé avant. D'un seul coup, ce qui était dans la bibliothèque est tombé. Et j'ai vu des morceaux de plâtre qui se décrochaient. On est tous sortis. Il y a des gravats partout dans la maison. Il y a 2 fissures qui courent tout le long du plafond dans la cuisine. Et sur l'extérieur de la maison, il y a 3 énormes fissures sur tout le mur extérieur tout le long. Quand je suis retournée à la maison, il y avait des pompiers qui étaient là. Ils ont monté les escaliers. Ils ont dit « Ah là là, ah là là ». Et puis ils ont dit « Vous pouvez pas rester là ». On s'est rendu au gymnase du lycée où on s'est bien occupé de nous. Nous, on a un petit qui a 10 mois, donc... C'est un peu compliqué. Nous, on va dormir dans le gymnase. Moi, je veux rester sur le Teil parce que je sais pas ce qui va se passer après, quoi.
Un témoignage d'une habitante du Teil près de Montélimar. Lui avait été arrêté hier à Paris en état d'ivresse après une bagarre, placé en garde à vue. Pete Doherty sera déféré demain devant le procureur. Le chanteur britannique des Libertines, âgé de 40 ans, avait déjà été arrêté il y a quelques jours, toujours à Paris, pour achat de cocaïne dans le quartier de Pigalle. Le Porche-Lacanau, Ourtin, Naujac, Cap-Ferré et Arcachon Cachon, les plages de 5 communes de Gironde, interdites d'accès après la découverte depuis des semaines de ballots de cocaïne au gré des marées, 763 kilos depuis la mi-octobre sur tout le littoral atlantique. Les autorités recommandent de ne pas y toucher, d'appeler le 17 en cas de découverte. Boeing table désormais sur une reprise des vols commerciaux du 737 MAX en début d'année prochaine et non plus en décembre comme prévu jusqu'à présent. Tous les exemplaires de l'appareil sont cloués au sol depuis mi-mars après deux accidents rapprochés qui ont fait au total 346 morts. Et puis l'état d'alerte déclenché dans la région de Sydney en Australie en raison du risque de recrudescence des incendies. Les habitants se préparent à faire face à une situation catastrophique.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Nora Hammadi, journaliste présentatrice de Vox Pop, le magazine d'investigation sur l'Europe, le dimanche sur Arte. Avec Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos, avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, et avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Nous allons évoquer un instant les expulsions des djihadistes annoncées par la Turquie vers notamment la France, l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne. Mais tout d'abord, je voudrais boucler ce débat autour de cette manifestation contre l'islamophobie hier à Paris, avec apparemment une controverse autour de ce plateau. Ma question est, Gilles Bornstein, peut-on manifester aujourd'hui à partir d'un appel dont on ne partagerait pas tous les termes?
Non, moi je pense que non, et c'est pour ça. Alors Nora regrettait qu'un certain nombre d'organisations ne se soient pas joints à la manifestation, et c'est exactement à cause de ça, parce que, encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour dire que non seulement la cause est juste, mais qu'il y a une cause. Personne ne met en doute, en tout cas pas moi, la réalité des discriminations et du racisme dont sont victimes une partie de notre population. Moi, je veux bien manifester derrière un slogan comme ça, mais je ne manifeste pas pour dire que la loi qui empêche une femme de porter la burqa est une loi liberticide. Donc je pense que c'est le champ restreint de l'appel qui a empêché une mobilisation républicaine. Ce qui me chagrine là-dedans, ouais, c'est que je trouve qu'il y a deux vainqueurs, je termine d'un mot, vas-y. Il y a deux vainqueurs, il y a le CCIF, parce que c'est vrai que pour la première fois, qu'on le veuille ou non, le CCIF a été leader d'une manifestation qui a été une manifestation réelle et dont je ne doute pas, chère Nora, qu'un certain nombre de gens, comme vous, ils sont allés pour de bonnes raisons. Et puis l'autre vainqueur, c'est Marine Le Pen, parce que, encore une fois, l'affichage dans Paris de cet islam politique, de ce Allahu Akbar repris par la foule, et du carburant pour elle. Et dernier mot, je trouve que La République En Marche, on a entendu un peu tout le monde, mais alors La République En Marche est complètement absente de ce débat, et franchement, ça me désole.
Oui, Henri Vernet.
Mais sur les termes, je suis entièrement d'accord, et notamment sur les lois liberticides, c'est vrai que c'est agaçant d'entendre, de réentendre ça. En effet, c'est exact que la France se fait épingler assez régulièrement par la Ligue internationale des droits de l'homme, par l'ONU d'ailleurs, y compris par des commissions de l'ONU, par Amnesty au niveau international. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que la laïcité, c'est un concept qui est éminemment français, qui est éminemment républicain. Vous n'avez même pas de traduction de ce mot, de ce terme et de ce qu'il recouvre comme réalité dans la plupart des pays, y compris nos partenaires les plus proches. On a du mal à comprendre ça, mais il se trouve que c'est le ferment de notre société. C'est le ferment de la République. Et donc, comparer cela à des lois, dire que ce sont des lois liberticides, et donc appeler les gens dans la rue. En effet, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Gilles quand même sur les Allahu Akbar qui ont été proférés, sur les appels au lynchage qui ont été faits concernant telle ou telle personnalité qui n'ont pas l'heure de plaire aux organisateurs dont on vient de parler. Tout cela est insupportable. Allahu Akbar proféré dans les rues de Paris, sur le toit d'une camionnette, à quelques jours de la commémoration des attentats du Bataclan. Excusez-moi, mais c'est insupportable. La cause, à la base, elle est juste. Discriminer les musulmans, il faut arrêter. Il faut que notre société évolue profondément là-dessus, qu'elle soit réellement une société d'égalité des chances. C'est une évidence. Mais à ce prix-là, avoir de telles manifestations, non.
Nora m'a dit, vous commentez régulièrement l'actualité sur ce plateau le soir, vous informez. Vous comprenez quand même que les symboles, j'y reviens, ont un sens malgré tout.
Mais attendez, vous n'avez pas à me faire la leçon sur les symboles qui ont un
c'est
sens.
Une question.
Je n'ai pas. Non. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'on essaye de me faire la leçon. Moi, je suis là pour vous porter la parole qu'il y a beaucoup de gens, et c'était la majorité de ceux que j'ai rencontrés hier, qui étaient là pour dire stop à des discours de haine, et que nous aurions souhaité collectivement que cette cette parole et que ce mot d'ordre soit porté par des grands partis, par de la gauche, et non pas effectivement par ceux à qui on a laissé le champ libre. Mais on les attend. Où sont-ils? Vous parliez effectivement de La République En Marche. Où est le PS? Pourquoi aujourd'hui on a laissé le champ libre à des organisations qui profitent peut-être, mais ce n'est même pas le débat que j'ai envie d'ouvrir aujourd'hui, pour faire en sorte de dire juste stop à ces discours de haine qui mettent une partie de la population française au banc parce que ils ne seraient pas susceptibles d'être en accord avec La République, etc. Et ben, collectivement, plus de 15 000 personnes se sont rendues hier dans la rue pour dire stop, voilà. Et ne se sont pas, entre guillemets, pris la tête très longtemps sur le mot d'ordre et se sont juste dit, il faut qu'on descende et qu'on dise stop, voilà. Après, on peut effectivement avoir des grands débats autour de, est-ce qu'il fallait dire liberticide, pas liberticide. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que vous avez 60% des femmes voilées dans ce pays qui ont subi une fois dans leur vie des discriminations. Vous avez une partie des jeunes gens, moi, avec qui je travaille en fait en atelier, qui sont issus de ces minorités et qui disent, on n'en peut plus d'être considérés en fait comme des sous-citoyens, qu'est-ce qu'on a à leur répondre aujourd'hui à ces gamins ?
Chloé Aumorin, pour rebondir, poursuivre ce qui est dit autour de cette table, c'est une urgence aujourd'hui de régler ce problème-là, de mettre ces sujets-là sur la table dans ce pays.
La réalité, c'est que dès qu'on met le sujet sur la table, on voit bien à quel point ça crée des tensions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, non mais il n'y a pas de consensus dans l'opinion française aujourd'hui pour dire que c'est une urgence. On est encore au point de se demander s'il faut en parler ou pas. C'est bien le sujet ici. C'est que si on a autant de mal à mettre un coup de projecteur là-dessus, si même les partis politiques, dont je pense que même le PS a fortement l'intention de dénoncer tous les actes islamophobes, de la même manière La République En Marche, mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas non plus à entraîner, peut-être que, enfin je veux dire, je vais pas douter de leur volonté, mais pourquoi est-ce que on n'arrive pas à entraîner autour de ce sujet-là? C'est parce que dans l'opinion, il n'y a pas de conscience de l'ampleur du phénomène que ça représente. Et du coup, des éléments qui sont peut-être plus, isolés, c'est-à-dire l'existence de discours portant atteinte aux valeurs de la République ou d'une forme de séparatisme ou de communautarisme, prennent une importance démesurée parce que justement, il n'y a pas cette conscience de la réalité de ce qu'est la vie d'un musulman aujourd'hui en France avec les discriminations que ça peut représenter.
Ah, c'est le mot de la fin. Henri Vernet, vous voulez
j'abonde totalement ce que dit Chloé Morin, mais c'est non seulement qu'il n'y a pas de conscience, mais il y a également une défiance, il y a également un sentiment latent de racisme qui est encore bien trop présent. Et là-dessus, on est tous d'accord qu'il faut le combattre, bien évidemment. C'est au-delà de prendre conscience, c'est changer, là aussi, changer nos mentalités.
Ah, très belle conclusion avec vous, Henri Vernet, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec Victor Vasseur.
Il n'y aura pas d'école demain. Au Teil, en Ardèche, par sécurité, des bâtiments et des maisons fragilisées et fissurées à cause d'un séisme ressenti dans toute la vallée du Rhône. Il y a 4 blessés, dont un grave. Une femme est tombée dans un échafaudage. En instance de divorce, une femme de 40 ans est morte dans le Bas-Rhin, poignardée par son mari. Il est en garde à vue. La victime avait déposé plainte le mois dernier. Selon un collectif, il s'agit du 131e féminicide depuis le début de l'année. La Turquie commence à renvoyer des djihadistes étrangers, un Danois, un Allemand et un Américain, détenus dans des prisons. 11 combattants français seront extradés, assure le ministère de l'Intérieur turc. 80 kilos de drogue retrouvés sur le littoral girondin lors de ces 24 dernières heures. Depuis la mi-octobre, des ballots de cocaïne s'échouent sur des plages. Le maire de Lacanau prévient, c'est 10 ans de prison si vous ramenez un ballot chez vous. La reprise des vols commerciaux du Boeing 737 MAX prend du retard. Ce sera en janvier et non en décembre. Ces avions n'ont plus volé depuis l'hiver à cause de 2 accidents ayant fait 346 victimes. Et puis, tabernacle fracturé, la boîte à hostie volée, des statues brisées, une église en Charente-Maritime profanée. Annonce de l'évêque de La Rochelle ce matin, il va porter plainte.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Victor Vasseur l'évoquait à l'instant, l'expulsion par la Turquie d'un certain nombre de djihadistes, de terroristes, membres du groupe Daesh, 11 Français concernés. C'est dans le cadre d'un accord passé il y a 5 ans avec Ankara, comme l'a rappelé la ministre des Armées Florence Parly. C'était ce matin sur France Inter avec Léa Salamé.
Nous avons un protocole qui s'appelle le protocole Cazeneuve et qui permet, lorsque des situations de ce type surviennent, de rapatrier dans les différents pays, en tout cas vers la France, des terroristes. Et c'est parce que nous ne voulons pas être confrontés à des retours sauvages, si je puis dire, de terroristes, que ce protocole a été organisé et conclu.
Chloé Morin, nous découvrons qu'il y a un protocole Cazeneuve. Je vous avoue que je l'ignorais moi-même.
Oui,
Le gouvernement, du moins Jean-Yves Le Drian, répéter à l'envi qu'il valait mieux que ces terroristes soient jugés dans les pays dans lesquels ils ont sévi.
Oui, alors après, on a aussi en face l'argument consistant à dire qu'il valait mieux les avoir ici, en prison en France et sous la main, entre guillemets, pour être sûr qu'ils ne soient pas libérés dans la nature ou je sais pas. Mais je me faisais la réflexion en écoutant le sujet, en fait, si on fait juste un pas de côté, la manière dont les sujets se télescopent et dont la machine à laver médiatique, en fait, finit par... je dis pas du tout que c'est la faute des médias, je dis juste que l'actualité fait que, juste après un sujet sur l'islamophobie, on a un sujet sur les terroristes, et puis ensuite on va avoir un sujet sur je sais pas quel... Et en réalité, on sait très bien que... Même si les médias et les journalistes et les commentateurs font bien leur travail pour contextualiser, expliquer, etc., ce que ça produit souvent chez les gens qui vont zapper 3 minutes, c'est une association de mots, d'images, etc. Et ça, en fait, ça souligne l'enjeu qui est de contextualiser chaque élément, chaque événement, et à quel point on peut sinon juste quand on regarde 5 minutes la télé, faire des raccourcis et des amalgames facilement.
C'est vrai qu'on aurait pu, intercaler entre ces deux sujets, je ne sais pas, moi, l'interdiction des trottinettes sur les trottoirs voilà, à Paris ou chez Bordenstein.
Non, c'est pas drôle du tout. Cette affaire est un terrible coup, je trouve, pour la diplomatie française, ouais. Parce que effectivement, jusqu'à présent, la doctrine constante, mais vraiment constante, de la diplomatie française, c'est on ne les rapatrie pas. Au terme de une chose vraie, une chose fausse. La chose vraie, c'est que en droit international, on est jugé là où on a commis des exactions. Si un Français commet un hold-up en Australie, il sera jugé en Australie. Bon, c'était pas que pour respecter le droit international que la France ne voulait pas les rapatrier, parce que c'est très compliqué. En France, il y a une justice indépendante qui fait son boulot. On dit pas, monsieur, vous étiez en Syrie, donc vous allez prendre perpète. Oui. Non, on enquête. Comment enquêter en zone de guerre sur des faits commis ou pas il y a longtemps? Donc la crainte de tout le monde, évidemment, c'est qu'ils prennent des peines, ce qui arrive, des peines assez faibles, 5 ans, 10 ans, et qu'ils sortent assez vite, ce qui fait peur à tout le monde. Et puis ce qui fait peur aussi à tout le monde, c'est la détention, même si elle est courte, la peur de la radicalisation en prison. Et puis évidemment, il y a la peur de l'opinion publique, parce que, je ne sais pas si c'est vous, mais des sondeurs ont sondé ça, et je sais qu'aussi que le gouvernement a demandé des enquêtes là-dessus. L'opinion publique française est massivement contre le retour des djihadistes, des combattants évidemment, mais aussi des femmes et des enfants. Alors je ne dis pas qu'il faut prendre en compte l'opinion publique, mais dans ce que pense le gouvernement, il y a cette crainte d'aller à rebours de l'opinion publique. Et là, l'Irak a dit, Erdogan en renvoie, l'Irak a dit la semaine dernière qu'ils allaient aussi renvoyer des djihadistes. C'est une chose très compliqué pour la diplomatie française.
Nora m'a dit, les pays européens sont concernés. Hein, on l'a vu avec les nationalités des différents combattants djihadistes terroristes de Daesh qui sont renvoyés, que ce soit en Allemagne, au Danemark ou ailleurs. Est-ce que vous pensez que nos démocraties, et pour poursuivre ce qui a été dit ici même, sont prêtes à accueillir ces combattants sur le retour?
Si tant est qu'une démocratie puisse être prête en fait à accueillir entre guillemets des individus qui veulent les détruire. Après, ça c'est un long débat.
Avec un risque de prosélytisme en prison et tout le reste.
Hein. Mais que vous avez de facto déjà aussi ici, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, ce prosélytisme existe, il existe sur Internet. Je vous renvoie aussi aux chiffres qui avaient pu être donnés il y a quelques années, en fait, que c'est chez ces jeunes gens, notamment, qui se sont rendus en fait dans les rangs de Daesh en Syrie, on en compterait en fait 1 sur 3 qui sont des convertis et qui ne sont pas passés ni par la case prison, ni même en fait par des quartiers populaires, ni même par des mosquées, et qui ont fait ça sur Internet. Enfin voilà, il y a des trajectoires qui sont extrêmement difficiles aujourd'hui en fait à contrôler, et donc dans le retour et dans le processus de déradicalisation, effectivement, ce sont des questions qui vont se poser. Après, l'autre enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi de tous ceux qui sont aujourd'hui à la main des Kurdes, des Kurdes qu'on a aujourd'hui abandonnés en fait et qui sont en guerre en ce moment avec la Turquie. Donc ils nous gardent entre guillemets des dizaines des centaines en fait
Gardez, parce que maintenant c'est terminé justement.
C'est mais bien le problème. Oui. Voilà.
Et l'Irak ne veut pas les reprendre.
Voilà. Et donc, de fait, là, en l'occurrence, tous les pays européens vont être confrontés à ça, et il n'y a pas de doctrine.
Il y a de quoi s'inquiéter, Henri Vernet.
Oui, bien sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter, puisque terrifiant aussi, c'est le triomphe du cynisme d'Erdogan. Et en effet, et c'est cette faillite de la diplomatie, alors européenne, n'en parlons pas, parce qu'elle n'existe pas, mais de la diplomatie française. Parce que là, en l'occurrence, ce protocole dont parle Madame Parly, mais oui, mais il était fait avec la Turquie. Et la Turquie, ces djihadistes n'ont pas sévi en Turquie. Ils ont sévi en Syrie et en Irak, avec lesquels, en effet, on n'avait pas de protocole, puisque ce sont des, en quelque sorte, des non-États. Bachar al-Assad d'un côté, et les héritiers, enfin, je veux dire, une situation quand même assez confuse en Irak. Donc, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un Erdogan qui a donné l'offensive, qui a fait sa sale besogne dans le Kurdistan syrien qu'il voulait absolument neutraliser. Résultat, les Kurdes, dont Nora Hammadi parlait à l'instant, qui gardaient, d'ailleurs c'était une indignité de la part des Occidentaux, qu'ils soient américains, français, etc., d'avoir délégué comme ça en quelque sorte ce point crucial aux Kurdes, qui avaient autre chose à faire, en l'occurrence, qui ont eu à se défendre. Ils ont donc ils n'ont plus assuré de garder ces camps. Ces djihadistes aujourd'hui sont dans la nature. Que fait-on? C'est un vrai problème. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que en effet, on parle là de Erdogan, de la Turquie, qui est un allié de la France au sein de l'OTAN, un allié des États-Unis, et c'est là qu'on mesure l'inconséquence terrible d'un Donald Trump qui a donné son feu vert à Erdogan. Donc, nous sommes tous membres de la même alliance, encore une fois, qui lui donne un feu vert pour aller envahir le Kurdistan syrien, la Syrie, et donc créer cette immense, excusez-moi le terme, mais enfin cette immense fatras, bordel, qui aujourd'hui nous retombe dessus de manière dramatique.
Emmanuel Macron a eu raison, Chloé Morin, de parler il y a trois jours de mort cérébrale de l'OTAN dans cette interview qui a fait date dans The Economist.
Qui a fait date et qui a créé des tensions assez
importantes
avec l'Allemagne. Donc je ne sais pas si diplomatiquement c'était. Mais bon, après il faut quand même constater que l'OTAN dans cette affaire est quand même extrêmement
inefficace. C'est sûr que diplomatiquement c'était moyen. Enfin, peut-être que justement il voulait provoquer, comme il a décidé qu'il ne provoquait plus sur la scène française. Peut-être que maintenant il veut provoquer sur la scène internationale. Mais c'est vrai, ce qu'il a dit, que là, l'OTAN, théoriquement, le traité de l'OTAN, c'est qu'on se doit tous assistance.
Donc nous devrions assister les Turcs contre les Kurdes.
Par hasard, Bachar les attaque. Oui. Nous devrions les... C'est-à-dire que pour lutter contre l'ennemi public numéro 1, on devrait assister l'ennemi public numéro 2 qui est devenu Erdogan. C'est vrai qu'il y a
Erdogan tapant
sur nos alliés, absolument.
Stratégiquement, il faut aussi rappeler qu'Emmanuel Macron a de tout temps été pro-défense européenne et que c'est une bonne manière de mettre le débat en fait, d'une défense européenne collective qui soit en dehors en fait, de l'OTAN, qui effectivement est en état de mort clinique.
Malheureusement, les Européens n'en veulent pas.
Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Victor Vasseur. Et ensuite, on parle de l'Espagne.
Celui qui meurt pour la France ne meurt pas en vain. Les mots d'Emmanuel Macron après l'inauguration d'un monument à Paris. Des statues de bronze à l'effigie de soldats. Elles rendent hommage aux 549 militaires morts pour la France à l'étranger depuis la guerre d'Algérie. L'arrêt de la centrale de Cruas ce soir, c'est la procédure après un séisme, explique la préfète de l'Ardèche. Demain, au Teil, toutes les écoles, collèges et lycées fermés par sécurité. Dans cette commune très touchée, des clochers d'églises menacent de s'effondrer. Esther Benbassa déplore l'interprétation de la photo polémique prise hier lors de la marche contre l'islamophobie à Paris. La sénatrice Europe Écologie Les Verts pose avec plusieurs enfants, dont une enfant. Elle porte une étoile jaune avec le mot musulman en anglais. Esther Benbassa assure cet autocollant, je ne l'ai pas vu. Les vols commerciaux des Boeing 737 MAX reprendront avec du retard en janvier. Ces avions sont cloués au sol depuis la mi-mars après deux accidents et ont fait 346 morts. J'ai eu le temps de voir ma mère mourir, la fille d'une victime de féminicide dans le Bas-Rhin, prend la parole. Elle dénonce la lenteur des gendarmes lors de leur intervention dimanche. La victime avait porté plainte contre son mari pour violence le mois dernier. Et puis Matteo Guendouzi remplace Blaise Matuidi en équipe de France. Blessé, le milieu de terrain de la Juventus Turin manquera les deux matchs de qualification de l'Euro 2020.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, un petit moment de détente avec la percée de l'extrême droite en Espagne pour refermer ces informés. Je vous concède que l'actualité est assez lourde hein, en ce 11 novembre. Ce pays est plus que jamais que bloqué. Hein. Pedro Sanchez, le vainqueur des législatives hier, a malgré tout raté son pari. Il n'y a toujours pas de majorité pour le Parti Socialiste au pouvoir. La surprise a été créée, vous le savez, par le parti donc Vox, qui a doublé son nombre de sièges, 52 sur 350. C'est le troisième parti d'Espagne. Ce qui n'a pas surpris l'eurodéputée Nathalie Loiseau, qui avait mené, souvenez-vous, la campagne de La République En Marche aux européennes, a été ce matin l'invitée de Marc Fauvel et de Renaud Dely sur France Info.
Quand ma famille politique, des progressistes, mettait en garde contre la montée des nationalistes, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? On nous a dit, vous dramatisez, ça vous arrange bien, vous décrivez quelque chose qui n'existe pas, tout ça pour montrer que vous êtes l'alternative. Eh bien, c'est ça qu'on voit, effectivement, partout en Europe, cette montée de l'extrême droite extrêmement préoccupante. Qui était au même niveau que La République En Marche ? C'était le Rassemblement National. J'ai pas choisi de les avoir comme principal adversaire. Mais où est-ce qu'ils étaient, les Républicains ? À 8%. Où est-ce qu'elle était, la gauche traditionnelle ? À 6%. C'est pas la faute de La République En Marche, c'est la réalité.
Gilles Bernstein, Nathalie Loiseau nous dit « J'avais raison, finalement, en fait, s'il n'y a pas eu en Espagne de scénario à la française, quoi, grosso modo. »
C'est-à-dire ?
On est resté sur les anciennes bases et ce pays devient ingouvernable.
Oui, ce pays devient ingouvernable. De toute façon, ce pays sort du bipartisme comme un certain nombre de pays, l'Allemagne, l'Angleterre, y compris la France. C'est des pays qui, pendant 10 ans, ont eu des traditions bipartistes. Il y avait deux partis de gouvernement en France, en Espagne, les socialistes, le PSOE, et la droite, le PP. Et aujourd'hui, il y a l'émergence de forces Ciudadanos, Vox ou Podemos qui le rendent absolument ingouvernable. Et sur l'émergence de Vox, il y a effectivement un phénomène général en Europe. Je pense que Chloé connaît ça beaucoup mieux que nous, avec une tendance, enfin, Vox qui était un parti d'extrême droite il y a un an, qui est devenu un parti populiste. Donc, il y a les mêmes causes que partout, plus la Catalogne, dont manifestement l'émergence de cet indépendantisme catalan a été un ingrédient énorme pour la progression de Vox, ouais. Plus aussi ce qui s'est passé récemment sur Franco, qui a aussi permis certainement à une partie de la droite espagnole, voire de l'extrême droite espagnole, de se retrouver dans ce parti.
Nora Hammadi, qu'est-ce que vous voyez dans cette poussée de l'extrême droite en Espagne ? On voit ça un petit peu partout en Europe. Hein,
Ah oui, on le voit effectivement partout en Europe. Après, c'est je général. Pense que sur la spécificité espagnole, le fait qu'en l'espace de quelques mois, ils aient doublé leur score vient aussi de l'incapacité en fait, des partis de gouvernement et des grands partis à trouver une solution. Les Espagnols,
à la crise catalane.
Au-delà, on en est à la quatrième législative en 4 ans. Il y a aussi un ras-le-bol des Espagnols, bien au-delà de la crise catalane, depuis en fait la crise de 2008 et une incapacité des partis de gouvernement en fait à s'entendre. L'immaturité, pardon, je vais être un petit peu provocatrice, mais l'immaturité du PSOE et de Podemos en fait à être capable de sortir un gouvernement qui est du coup qui a conduit une nouvelle fois en fait les Espagnols aux urnes, a aussi conduit en fait à renforcer ce parti d'extrême droite. Donc il y a la crise catalane, il y a la crise économique, il y a effectivement tout un discours en fait autour des étrangers qui commence aussi à faire florès en Espagne, et il faut le dire, il n'y a que très peu de pays aujourd'hui en Europe qui ne soient pas touchés par cette vague, le Portugal et l'Irlande.
Ouais. Chloé Morin, pour poursuivre la réflexion de Nora Hammadi, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'au fond le Parti Socialiste au pouvoir devrait briser au fond cette idée des grands blocs et faire une espèce d'alliance avec tant pis, prendre la main au Parti populaire ou au parti de centre-droit Ciudadanos.
La difficulté, c'est dans un paysage politique extrêmement fragmenté, est-ce que les blocs, les alliances durables sont encore possibles ou est-ce qu'il faut aller chercher des majorités selon les sujets, selon les lois, avec l'instabilité que ça engendre. Sur l'émergence de Vox, en fait, ce qui est intéressant, c'est finalement l'Espagne était jusqu'à récemment une sorte de, d'exception parmi les pays européens pas avoir une extrême droite relativement forte. Et quand on regardait sur le papier, il y avait quand même un certain nombre d'ingrédients du populisme qui étaient communs. C'est le rejet des élites qui est extrêmement fort, le sentiment que le système économique favorise les riches et les puissants, le rejet de l'immigration. Et donc, quelque part, dans la reconfiguration, le changement de stratégie de Vox depuis les européennes, ils ont réussi à capitaliser sur le courant qu'on voit s'exprimer partout en Europe.
Le mot de la fin, Henri Vernet.
Non, mais c'est ça, et le constat de gouvernements qui sont impuissants à régler les problèmes extrêmement urgents. Bah oui, on a fait la crise catalane, les migrants, la crise économique, etc. Cela dit, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que c'est quand même, là encore une fois, le système représentatif qui est profondément battu en brèche, qui est remis en question. Et ça, ça devient une constante dans la plupart des pays européens. Alors là, en plus, avec le procès qu'on pourrait faire et que nous manquerons pas de faire certains à la proportionnelle, parce qu'on voit bien que là, maintenant, pour trouver une façon de gouverner, quelque part, ça se pose également en Allemagne, pour trouver des majorités solides et efficaces pour gouverner, ça devient de plus en plus compliqué. Dernière remarque, je trouve que Nathalie Loiseau a quand même un petit peu tort de se féliciter de tout ça, parce que Ciudadanos, donc le fameux parti centriste, qui était le modèle, enfin, en tout cas, qui avait En Marche et Macron pour modèle, mais c'est rétamé, lui aussi. Ils ont complètement.
Dont le responsable a démissionné d'ailleurs ce soir.
Mais absolument. Or, ce sont les alliés de Renew Europe, quoi, de Renaissance en Europe. Donc, c'est là également un mauvais signal. Dernière petite chose, on voit aussi que Salvini, Salvini, l'extrême droite italienne, on le voit qui regrignote à chaque élection régionale, qui regrignote du terrain.
Et la une du Parisien aujourd'hui en France demain?
L'emploi. Ah ben voilà une bonne nouvelle enfin, embellie sur l'emploi. Vous voyez, il y a quand même une touche d'optimisme dans cette émission.
Allez, 20h58, c'est l'heure de conclure. Merci à tous les quatre, Nora Madi, Chloé Morin, Henri Vernet, Gilles Bornstein, d'avoir participé à ces informés du 11 novembre. Je vous retrouve pour ma part demain soir pour une toute prochaine édition. Bonne soirée.